France Inter, le 6-9 du week-end. Intervenez.
Mais oui, intervenez au 01 45 24 7000. L'invité ce matin, c'est le sociologue Dominique Volton, le chercheur. Pour son livre « Politique et société du pape François », c'est aux éditions de l'Observatoire, ça sortira mercredi. On attend vos questions donc au téléphone 01 45 24 7000 ou alors sur internet. Le mot-clé, c'est le 6-9 week-end. D'abord Dominique Volton, comme chaque matin, le week-end, la question de côté, c'est celle de Patricia Martin.
Alors de quel côté?
Je vous pose la question.
Excellent. Alors, Dominique Volton, il y a donc le pape, mais il y a d'autres rencontres marquantes, voire déterminantes dans votre vie. Il y a eu Raymond Aron, Jean-Marie Lustiger et Jacques Delors. En dehors d'être inclassables, ces hommes ont-ils un point commun? Alors, j'émets une hypothèse, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je me disais que ça avait quelque chose à voir dans la relation à l'autre. Ce sont des super communicants qui mettent sur la table leurs différences. Et c'est là-dessus qu'ils discutent. Beaucoup plus sur les différences, les divergences que sur les convergences.
Oui,
Est-ce que ça pourrait être une hypothèse?
Oui, c'est une bonne hypothèse. En gros, d'ailleurs, j'ai une relation excellente avec ces quatre personnalités, mais beaucoup de désaccords aussi. D'ailleurs, c'est pas un livre sur le pape, c'est un livre avec le pape. Et c'est toute la difficulté que j'ai eue, c'est un vrai dialogue avec l'authenticité que représente la rencontre intellectuelle et humaine. Mais vous avez raison, le point commun en définitive, un, c'était des personnalités indisciplinées, finalement toutes, en gros. Aron, parce qu'il a été condamné par la gauche pendant quand même 50 ans. Jean-Marie Lustiger, parce que son origine double et en plus c'est un caractère difficile. Delors, c'était à la limite le plus normal, mais enfin quand même pas si normal que ça puis dans sa carrière politique, et puis surtout il était président de la Commission européenne. J'avais quelques difficultés avec lui parce que, bref, et le pape. Et si je puis dire, le paradoxe, c'est que c'est peut-être avec le pape que ça a été le plus facile, alors même qu'en définitive, la distance symbolique est essentielle, et qu'il l'a gardée, que je l'ai gardée, notamment... Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout de même pas facile de dialoguer. On a tous, avec un pape, parce qu'on a tous l'habitude d'une société laïque où on pose questions, réponses, oppositions. Ce que j'ai fait, c'est beaucoup plus dur que des interviews, c'est beaucoup plus dur que des entretiens, c'est garder la distance, j'étais d'accord, pas d'accord, il fallait que je respecte, et en même temps, il y avait cette capacité qu'a cet homme de briser les distances, et de retrouver l'authenticité humaine. Oui, c'est... Les quatre rencontres ont été exceptionnelles sur le plan intellectuel et humain. Celle-là l'est encore plus, compte tenu de ce qu'il représente comme autorité spirituelle.
Dominique Volton, on va prendre des questions d'auditeurs au standard avec Agathe qui nous appelle de Le Perreux-sur-Marne. Bonjour Agathe.
Bonjour France Inter. Alors voilà, j'aimerais savoir si Dominique Volton a eu l'occasion de demander au pape pourquoi il s'oppose à ce que des femmes soient prêtres. Alors c'est la question que moi-même je poserais au pape si je le rencontrais. Alors ce qui m'intéresse bien sûr, ce sont ses arguments que je ne connais pas. Et puis en parallèle, ça me semble d'autant plus frappant qu'il y a une pénurie de papes, en tout cas en France.
De papes, non.
De prêtres.
C'est drôle, il peut y avoir les deux d'ailleurs, on ne sait jamais.
Lors des obsèques de ma mère récemment en Bretagne, on m'a expliqué que la cérémonie ne pourrait être conduite par un prêtre. Et ce sont donc des femmes, d'ailleurs, qui n'étaient pas prêtes, qui ont organisé, enfin qui ont mené la cérémonie. Merci beaucoup.
Dominique Volton vous répond.
Oui, alors j'ai pas la réponse déjà sur la position des femmes, c'est dit dans le livre. Oui, il veut des femmes à la curie, déjà. La première bataille, c'est de gagner la bataille de la curie.
Et si on bouge pas beaucoup la curie comme ça.
Non, on la bouge pas comme ça. Et hélas, plusieurs papes le savent, parce que même Jean-Paul II avait essayé. Moi, je suis pas du tout un spécialiste du Vatican. Je suis absolument pas naïf sur le rapport de force et les questions de pouvoir, mais je voulais essayer de trouver un autre type de niveau de discussion sur la mondialisation. Mais un, il n'y a pas d'opposition définitive sur la femme, sur la position des femmes dans l'Église, ça c'est clair, dans la curie et sur la prêtrise. Même sur le mariage des prêtres, quand on lit entre les lignes du livre, on voit bien que la question n'est pas close. Il est peu dogmatique. Il est, comme tous les prêtres, sensible à la tradition et à certains dogmes, mais il est hostile à la rigidité. Et je pense que, venant d'où il vient, de l'immigration très importante italienne, plus de ça, de son expérience d'Argentin, parce que quand on est en Argentine, on voit toutes les dominations idéologiques, politiques et culturelles. Il n'arrive pas pape très jeune, tout de même. Il est sensible à l'évolution de la société. Pour lui, si vous voulez, l'évolution de la société, il faut l'entendre, il faut la limiter. On peut pas, l'Église n'est pas faite pour faire de la sociologie, surtout pas seulement de la sociologie. D'ailleurs, c'est ce conflit spiritualité et sociologie qui fait la force de toutes les institutions religieuses, et notamment de l'Église catholique dans le monde. Mais sur ces questions-là, il est plus ouvert qu'on ne le pense. Et il ne peut pas le dire naturellement aujourd'hui, parce qu'il faut voir ce que c'est que l'engagement sacramental, spirituel, politique, culturel de ce que peut dire un pape. C'est une autorité morale, donc il ne peut pas intervenir constamment. Et puis il ne peut pas évoluer à la vitesse de la société. Mais sur cette question essentielle de la place des femmes, moi ce que j'ai entendu et qu'il a laissé dans le livre, puisqu'il n'a fait aucune censure, c'est que oui, c'est urgent que les femmes occupent globalement une place beaucoup plus grande dans l'Église.
Dominique Volton, quand vous demandez au pape s'il a connu des femmes qui l'ont marqué et qu'il vous répond oui, est-ce que votre question était de savoir si l'adolescent argentin, le jeune Jorge Mario, avait connu le plaisir charnel ?
Moi, si vous voulez, j'ai une position théorique forte hein, dans la mondialisation de la communication. Il faut préserver la séparation privée-publique. Je pense qu'au bout d'un moment, j'ai posé cette question, j'ai pas envie de droit de suite. C'est-à-dire que, de même que sur la question de la psychanalyse, je ne demande pas à quelqu'un...
Oui, parce qu'à 42 ans, il a fait une psychanalyse, oui, on en reparlera voilà. Après.
Et beaucoup de questions, beaucoup me disent, mais pourquoi vous n'êtes pas poursuivi? Parce que je pense que la séparation privée-publique, c'est sacré. Chacun d'entre nous, on a droit à une vie privée. Je trouve qu'il a dit des choses qui sont déjà assez personnelles. Il les a laissées dans le livre. Voilà, j'ai pas plus à aller là-dedans. C'est fondamental.
Il vous dit tout de même un peu plus. Il vous dit que la femme qui l'a marqué, au-delà de sa mère et de sa grand-mère, c'est une militante communiste qui a été tuée sous la dictature argentine. Est-ce que le pape est un pape, si ce n'est de gauche, en tout cas communiste? Enfin, la question est à l'inverse, si ce n'est communiste.
Non, alors, il n'est pas marxiste, parce qu'il y a eu un débat énorme en Amérique latine entre théologie de la libération et théologie du peuple. Mais c'est un pape révolté, ça c'est clair. Qui dit les choses. Ce qu'il a dit sur le dialogue avec ses rencontres avec cette femme, c'est très beau parce que ça se termine par un assassinat. C'était suffisamment fort et je pense que c'est suffisamment net dans le livre. C'est pas la peine. Il faut préserver le droit au secret, à l'intimité, à la vie privée. On n'a pas à étaler la vie d'un président de la République ou d'un pape ou d'une personnalité publique. Je pense que préserver cette frontière privée publique, c'est une des conditions fondamentales de la démocratie par rapport à la pipolisation folle qui consiste à croire qu'on doit tout dire publiquement. Et moi, je dois dire que j'ai mis ça parce que ça correspondait à nos échanges. Et j'ai pas envie d'en savoir plus, mais c'est fondamental comme position éthique, si vous voulez. Parce que moi, je suis un chercheur de la communication, et la communication, c'est pas la transparence, c'est pas tout voir, tout dire.
On va retirer l'intimité, mais on va rester sur le domaine de la chasteté, mais celle des prêtres et des sœurs. Pour le pape, les prêtres et les sœurs qui finiraient par devenir amers en devenant ce qu'il appelle des vieux garçons ou des vieilles filles, c'est ce qu'il redoute. Est-ce que pour autant, il incite les gens de l'Église à connaître le plaisir charnel?
Ah, écoutez, il est d'une netteté là-dessus contre la rigidité des vieux garçons et des vieilles filles que sont parfois les prêtres ou les sœurs. C'est d'une netteté incroyable. C'est en gros, le discours religieux est, comme tous les discours un peu compliqués, il est à plusieurs niveaux d'entrée. C'est-à-dire qu'en condamnant très nettement la rigidité et en faisant appel à l'ouverture, il faut entendre ce qu'il faut entendre. C'est-à-dire que par définition, quand il condamne le comportement des évêques mondains ou des prêtres mondains ou des évêques d'aéroport. Donc il est d'une netteté absolue aux acteurs de l'entendre et d'en faire ce que il est vraiment, du point de vue des mœurs ou de la société, le plus libéral, si le mot a un sens, au sens anglo-saxon, disons, le plus ouvert de tout ce qui a été dit depuis des années, mais lui-même est confronté à sa propre institution. Donc c'est pour ça qu'il s'appuie. Il adore le peuple, c'est une chose fondamentale à dire. C'est quelqu'un qui est, pas au sens de l'Europe, parce qu'on se méfie du peuple maintenant, mais au sens de l'Amérique latine, c'est tout le monde, les gens ordinaires. Il déteste la hiérarchie. Il préfère mille fois les gens ordinaires. C'est en ça qu'il est absolument étonnant. Parce que si vous voulez, il assume son rôle. Mais en même temps, il dit non, moi je suis jamais aussi bien qu'avec... Mais ces témoignages qu'on a sur son rôle en Amérique latine.
Quand on vous écoute, quand on vous entend, on sent un homme sous le charme. Hein,
tout de même. Non, pas sous le charme, attendez. J'ai eu plein de désaccords avec lui. Certains sont visibles dans le livre, d'autres sont pas visibles parce que c'était pas d'un intérêt public. Je dis simplement qu'il y a des personnalités qui rencontrent l'histoire. Celui-ci en fait une. Je pense que le rôle d'un scientifique, c'est quand même d'être aussi capable de reconnaître que dans le domaine scientifique, artistique, politique, religieux, il peut y avoir des personnalités exceptionnelles. C'en est une. Vous savez, la popularité. Moi, je suis pas un fanat de la popularité, mais quand je pense que cet homme, en moins de 3 mois, a trouvé les mots d'une simplicité invraisemblable pour être compris par des peuples, des langues entières et des mots, ça pose une question théorique intéressante du point de vue de qu'est-ce que c'est que la communication publique. Je l'ai dit, je suis agnostique et je n'en dirai pas davantage concernant mes rapports à la religion. Je suis intéressé par la culture catholique, je suis de culture catholique, ça m'intéresse. Je trouve par exemple que l'Église, dont je connais par cœur tous les défauts, elle est quand même une des institutions, la seule, qui essaie de toucher la question de l'universalité. Or, si vous voulez, la question de la mondialisation, ça va toucher la question de l'universalité, c'est-à-dire de se respecter les uns et les autres dans nos immenses différences. Et ça, c'est une question politique centrale pour l'avenir de la paix et de la guerre. D'ailleurs, parenthèse, c'est quelqu'un qui est très obsédé par la paix et la guerre. Et moi, c'est à ce niveau de recherche que je me situe. Je n'ai aucune honte à dire que c'est une personnalité exceptionnelle et je ne me sens pas du tout avoir été embarqué.
Sur la guerre, l'Église a longtemps légitimé la guerre juste. Eh bien, c'est une notion qu'il réfute. Il n'y a pas de guerre juste pour lui.
Il est en train de dire...
Il est en désaccord avec des siècles de discours de l'Église.
Et il dit qu'il y a la paix qui est juste et je pense que là, nous allons avoir une avancée dogmatique, programmatique et doctrinale qui va être incroyable parce qu'il va changer de position par rapport à ça.
Sur l'islam, un mot, Dominique Volton, le pape catholique vous a dit que cela ferait du bien, je le cite, ça ferait du bien aux musulmans de faire une étude critique catholique du Coran. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là?
En deux mots, si vous voulez, l'Église catholique a connu cette question entre 1890 et 1930, c'est-à-dire de faire une critique exégétique et de reprendre les textes et d'avoir une vision critique. Et c'est vrai que ça a contribué à sortir un certain nombre de questions de l'Église d'une tradition. Ceci, il y a eu Rerum Novarum, de même pour ouvrir l'Église sur la société, mais bon. En tout cas, l'Église a fait ce mouvement, et en gros, c'est un mouvement qui peut être fait par toutes les religions, c'est une réflexion critique. Mais lui, il est obsédé par le lien à créer avec l'islam. Obsédé. Si vous voulez dire, ok, il y a le dialogue œcuménique, c'est-à-dire le dialogue entre les religions chrétiennes, qu'il faut améliorer, mais la question principale, c'est, puisqu'il y a déjà eu beaucoup de travail sur les relations avec le judaïsme, la question principale, c'est l'islam. Et d'ailleurs, on l'a bien vu que dans ses voyages, il va continuer, il va dans les pays musulmans.
Il a prévu de se rendre prochainement dans un pays.
Bien sûr, mais il veut y aller. Il est actuellement en train de défendre les musulmans qui sont massacrés dans différentes parties du monde, comme les chrétiens, évidemment. Mais si vous voulez, ce qui est incroyable du point de vue de l'histoire de l'Église, c'est que le dialogue judéo-chrétien, on en a maintenant l'habitude depuis Vatican II, là, cette ouverture sur l'islam, dans une période quand même particulièrement violente, il l'a fait, il l'amène. Et si vous observez tous ces voyages et ce qu'il va faire, il est dans cette perspective-là constamment. Et moi, ça m'intéresse du point de vue, si vous voulez, sociopolitique et mon niveau de réflexion, c'est il y a un vrai changement. Et je dis, c'est rare, si vous voulez, dans cette mondialisation qui est quand même une marmite extrêmement dangereuse, de voir une des autorités spirituelles les plus importantes, si ce n'est peut-être la plus importante, qui dit, mais oui, il faut y aller. Relier, c'est son obsession, faire des ponts, relier, parler, ne pas couper. Et dire, l'islam, tout le monde dit la même chose sur l'islam. Il faut un jour qu'il y ait un travail exégétique qui se fasse, et ça ne veut pas dire de condamner l'islam.
Il ne condamne pas l'islam, mais comme c'est un laïc forcené, il ne comprend pas, en tout cas il le comprend très bien, mais il voudrait bien séparer dans toutes les religions, pourquoi pas, l'Église et l'État.
Ah mais écoutez, là-dessus, ça me fait penser à ce qui s'était passé dans le dialogue avec Jean-Marie Lustiger, c'est un laïc. D'ailleurs, moi, je parle mieux avec les religieux laïcs, avec les religieux, c'est clair. Et c'est un laïc, c'est-à-dire, et bien sûr qu'il est pape, mais il dit la séparation de l'Église et d'État et l'espèce d'admiration qu'il a pour la laïcité française, c'est ça. Il aime beaucoup la France. D'ailleurs, je pense que la relation que c'est née entre lui et moi, c'était aussi parce que j'étais un intellectuel français. La seule chose qu'il dit, il faut une saine laïcité, et la seule chose qu'il souhaiterait pour la laïcité française, c'est qu'on y introduise un mot pour laisser ouvert la question de la transcendance. C'est-à-dire, pas forcément la question des religions, mais dire, la laïcité est parfaitement compatible avec le fait qu'on laisse ouverte la question de la transcendance. Et c'est vrai que c'est la question de la transcendance, c'est la question de la métaphysique.
Eh bien, on lira la suite dans votre livre, Dominique Volton. Ça s'appelle Politique et société du pape François. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et c'est en librairie à partir de mercredi. Merci et bonne journée, Dominique
Merci,
Volton.
Merci, excusez-moi pour la vitesse de mon élocution. Mais
on a tout compris.
Vous n'avez pas vieilli.
Vous êtes un enthousiaste.